Et on commence avec cette descente de police ce matin, quartier Vetavatava.
À 10h, pas moins de 25 policiers de la DSP se sont déployés dans le quartier de Pile, connu pour être un spot habituel de revente de PACA. Des policiers de la section d'intervention, de la BSU, de la brigade motorisée, mais aussi une équipe cynophile ont été mobilisés. L'équipe cynophile, justement, qui a mis la main sur 5 boîtiers de cassettes VHS renfermant 10 boîtes de PACA chacune, prix estimé à la revente 250 000 francs en tout. Les policiers ont également saisi plusieurs sticks déjà préparés et un peu d'argent en liquide. Le commissaire de la DSP, François Perrault, était sur place pendant l'opération.
C'est des opérations qu'on va, je vous dirais pas concernant celle-ci, mais d'une façon générale, on va les renouveler et on les fera assez souvent. Ça suppose du monde, il faut une bonne organisation, il faut que les conditions s'y prêtent, mais vous voyez, à cette heure-là, à 10h du matin, on ramasse beaucoup de produits. Donc ça prouve qu'à tout moment, ça tourne. Hein. Mais il faut qu'on arrive à casser ce trafic et ce lieu qui est devenu une zone de revente. Hein.
Par ailleurs, une demi-douzaine de dealers ont été identifiés. La plupart seront convoqués au commissariat pour s'expliquer sur leur trafic.
Politique à présent, 2 jours avant la primaire, Gaston Floss crie déjà au scandale.
Un scandale, c'est effectivement le terme employé ce matin par le leader du Tahuerha lors d'une conférence de presse au siège du parti. Dans la ligne de mire, encore une fois, l'organisation des primaires qui auront lieu ce week-end. Au lieu des 80 bureaux de vote au départ, il n'y en a plus que 13. Je cite Gaston Floss qui parle de magouille. Selon lui, les bureaux de vote n'ont été installés que dans des communes Tapura. Gaston Floss qui accuse la haute autorité des Républicains d'avoir agi sur proposition du président Édouard Fritsch.
Il n'y a pas de bureau de vote, 30 000 habitants et ils sont obligés de venir à Papeete.
C'est un déni de démocratie.
C'est évidemment que c'est un déni de démocratie et c'est pire dans les archipels. Aux Australiens, il n'y a qu'un bureau de vote à Rurutu. Évidemment, pourquoi Rurutu? Frédéric Rivetta, qui est du Tapura Huiratira, alors que la capitale, c'est Tupuai. Mais le maire est à Huiratira. Aux Marquises également, un seul bureau de vote. Mais où vont voter les électeurs de Hivaoa, ceux de Wapau, au Tuamotu, il n'y a que 2 bureaux de vote, Rangiroa et Ha. Et le reste des électeurs, où vont-ils aller voter? Jamais vu ça.
Des propos recueillis par Vaïté Ourar Ipambra, en tout cas Gaston Floss, qui annonce qu'il fera sans doute, je cite, un recours par rapport à cela, mais pour l'instant, c'est trop tard, déclare-t-il.
Un mot de justice à présent avec le maire de Huayné qui comparaît de nouveau en appel ce matin.
Un appel du parquet contre Marcelin Lisan, condamné en 2015 à 1 million de francs d'amende pour prise illégale d'intérêt. Le maire de Huayné coupable d'avoir fait acheter les fournitures de sa mairie dans ses propres magasins. Mais surtout Marcelin Lisan qui avait échappé à la peine d'inéligibilité demandée par le parquet. Le parquet qui a donc fait appel examiné aujourd'hui.
Allez, on marque une courte pause dans ce journal. Nous revenons pour parler d'un nouveau téléservice de traduction français-tahitien. On parlera également d'un colloque sur l'Océanie convoité, puis du maillot de la ronde tahitienne. On reprend avec un nouveau téléservice de traduction français-tahitien-anglais-espagnol présenté cette semaine.
Depuis le début de la semaine, Radio 1 vous présente les dernières innovations technologiques présentées à l'occasion de la semaine de l'innovation. Et comme pour les services du cadastre, des transports terrestres ou encore de la propriété intellectuelle, le service de la traduction et de l'interprétariat met en place Turama, un service qui permet d'économiser la moitié des démarches nécessaires pour l'obtention d'une traduction légale d'un texte officiel. Écoutez les précisions d'un traducteur, Yann Persgel.
Les traductions que le service fournit sont des traductions certifiées. Les agents sont des agents assermentés auprès du tribunal de première instance. Et donc, les traductions qui sont rendues ont une assise légale. On a des usagers qui se déplacent parfois depuis des communes éloignées, voire des îles. Donc, s'il faut qu'ils prennent le bateau, qu'ils arrivent, qu'ils déposent leur demande, qu'ils repartent et qu'ils reviennent ensuite pour la récupérer, là, on a déjà diminué de moitié les déplacements de ces usagers.
Yann Persgal interrogé par Cédric Valax et avec Turama, l'internaute pourra donc envoyer le texte à traduire. Le service lui soumettra ensuite un devis et un délai. Alors pour l'instant, l'usager a encore besoin de se rendre sur place pour récupérer et payer sa traduction. Là encore, comme dans la plupart des téléservices présentés cette semaine, le pays est toujours en attente des modalités de paiement en ligne.
Un colloque sur l'Océanie convoitée, c'est le programme de 38 chercheurs à l'université de la semaine prochaine.
L'université du Pacifique la semaine prochaine, en tout cas les 24, 25 et 26 novembre prochains, l'université de la Polynésie française accueillera cet événement dans son amphithéâtre à 3. Il s'agit plus précisément de la deuxième partie du colloque qui s'était déjà déroulé en septembre 2015 au siège du CNRS à Paris, en présence du politologue Semir Alouardi et de l'historien Jean-Marc Regnault. En fait, l'idée de créer ce colloque est partie du constat de la présence chinoise depuis un certain nombre d'années, que ce soit en Mélanésie ou en Polynésie. C'est ce qu'explique le politologue Semir Alouardi à Valentine Bluet.
On va approfondir, analyser la véritable situation. Et c'est là où finalement, petit à petit, on a décidé de ne pas rester sur la Chine et de parler de cette Océanie qui est convoitée finalement par beaucoup d'États dans le monde. Par exemple, nous avons une intervention sur l'Inde et l'Océanie. Et puis, l'autre information que nous avons trouvée assez amusante, c'est que pour le COP22 à Marrakech, le roi du Maroc a financé la plupart des billets et des séjours des chefs d'État et de gouvernement d'Océanie. Donc en fait, tout le monde a un intérêt à l'Océanie, que ce soit pour les voies à l'ONU, pour que ce soit pour des ressources, que ce soit pour une influence, etc., etc.
Et je vous le disais, 38 chercheurs du Pacifique, mais aussi du Canada, de l'Europe, de Tokyo et de Libreville ont été invités. Les sujets évoqués seront vastes, avec une première journée centrée sur les relations entre la Chine et le Pacifique. Les deux autres journées aborderont les enjeux juridiques de l'exploitation minière des fonds marins en Polynésie, le poids de l'ONU en Océanie également, et l'évangélisation ou encore les dépendances économiques.
Cette bonne nouvelle pour terminer, le maillot de la ronde tahitienne a remporté le prix du plus beau maillot de cyclo-sportive en 2016.
Et ce sont les lecteurs du magazine cycliste Le Cycle qui ont été appelés à élire le plus beau maillot cyclo-sportif. 20 maillots étaient présélectionnés par le magazine sur les 200 épreuves cyclo-sportives répertoriées en France. Et parmi tous ces maillots, c'est celui de la ronde tahitienne qui a été choisi avec 22,5% des votes parmi les 5000 participants. Il faut dire que le maillot fait rêver avec sa plage de sable blanc et son lagon, et puis avec ses deux logos Radio 1 et Thierry FM, partenaires de la ronde tahitienne.
Il faut le rappeler. Très beau.
C'est sûrement pour ça aussi. En tout cas, les organisateurs de la ronde tahitienne ont profité de l'occasion pour saluer les enfants de la fraternité chrétienne et leurs éducateurs à qui était destiné ce maillot. Maillot qui a servi pour la levée de fonds de la frate. Il est 12h09, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On passe tout de suite à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Thierry FM.